École florentine. Vie de Léonard de Vinci, peintre et sculpteur florentin. Né, d'après la plupart des auteurs, en 1455 et décédé en 1520. Mais d'après les manuscrits, il paraît qu'il naquit en 1452 et qu'il mourut à Amboise le 2 mai 1519. Souvent, la Providence répand naturellement sur les hommes de très grands bienfaits. Parfois aussi, et sans mesure, elle rassemble tellement en un seul beauté, grâce, vertu, que chaque action de celui-ci paraît émaner de la divinité. Qu'enfin, surpassant tous les autres, on ne peut s'empêcher de reconnaître en lui plutôt les libéralités du ciel que l'intelligence ordinaire à l'homme. C'est ce que tout le monde reconnut en Léonard de Vinci, dont on ne l'aura jamais assez la beauté du corps et dont toutes les actions étaient accompagnées d'une grâce infinie. Non moins doué d'un mérite éminent, il savait aisément surmonter les difficultés. Très fort, il réunissait à l'adresse une intelligence et un courage toujours grand, toujours généreux. Et quoique son nom fût célèbre de son vivant, la prospérité le propagea beaucoup davantage après sa mort. On ne peut se dissimuler que Léonard, fils de Sieur Pierre de Vinci, ne fut aussi étonnant que divin. Et sans la légèreté de son caractère, il eut fait de grands progrès dans la littérature et les belles lettres. Il entreprenait beaucoup de choses, mais les abandonnait après les avoir commencées. L'arithmétique lui devint en peu de mois si familière que très souvent, il confondait son maître par des doutes et des difficultés. Il s'adonna un peu à la musique, après bientôt à jouer de la lyre. Et doué d'un génie aussi supérieur qu'en rempli de grâce, il en joua parfaitement en improvisant. Néanmoins, quoiqu'il s'appliquât à des choses si diverses, il ne cessa jamais de dessiner et de modeler, à quoi son goût le portait préférablement. Sieur Pierre, ayant remarqué la supériorité de ce génie, prit un jour quelques-uns de ses dessins, les porta à André del Verrocchio, son intime ami, et le pria instamment de lui dire si, avec de l'application, Léonard pourrait faire quelques progrès dans cet art. André, étonné de ses grandes dispositions, excita Sieur Pierre à le faire continuer. Aussi fut-il convenu avec Léonard qu'il irait travailler à l'atelier d'André, ce qu'il exécuta avec plaisir. Il ne sentait pas à une seule étude, mais s'instruisit dans tout ce qui pouvait avoir rapport au dessin. Il avait une intelligence extraordinaire et était excellent géomètre. Il modela en terre, dans sa jeunesse, quelques têtes de femmes qui rient, propres à être moulées, ainsi que des têtes d'enfants, dignes de main de maître. Comme architecte, il fit encore beaucoup de plans et dessins de divers édifices, et quoique très jeune, fut le premier qui fit des projets sur le fleuve d'Arno pour en faire un canal de Pise à Florence. Il s'occupa de même de dessins de moulins, de fouleries et de machines qui pussent mouvoir par la force de l'eau. Et comme il était décidément appelé à l'art de la peinture, il s'appliqua beaucoup à dessiner d'après nature, et quelquefois modela des figures en terre, sur lesquelles il mettait de vieux linges mouillés, enduits de terre. Ensuite, avec patience, il les dessinait sur du linon très fin, ou de la toile de lin qui avait déjà servi. Et les terminait à la pointe du pinceau avec du blanc et du noir d'une manière admirable, comme on en peut juger par ceux de sa main contenus dans notre recueil. Il fit, outre cela, des dessins sur papier exécutés avec une telle perfection et tant de soin que personne n'est jamais parvenu à ce degré de pureté. J'en ai la preuve dans une tête qui est divine, tant pour le style que pour la partie du clair-obscur. La nature l'avait comblé de ses faveurs en lui accordant une mémoire, une intelligence et une manière de démontrer la plus convaincante. Ses dessins exprimaient aussi bien ses idées que ses raisonnements, et sa pénétration atterrait et confondait les plus forts et les plus instruits. Il faisait journellement des modèles et des dessins pour aplanir sans peine les montagnes, les percer de manière à passer d'une plaine à une autre. Et au moyen de leviers, de cabestans et de vis, il démontrait pouvoir élever et tirer des poids considérables. Il donnait la manière de vider les ports et tarir les eaux des fonds à l'aide des pompes. Ce génie ne cessait jamais de méditer. On en voit quantité de dessins répandus ça et là parmi les artistes, et j'en ai vu beaucoup moi-même. Il employa beaucoup de temps à dessiner des nœuds de cordes disposés avec un tel ordre qu'ils se suivaient d'un bout à l'autre de manière à remplir un cercle. On en voit un gravé qui est très difficile, au milieu duquel sont ces mots « Leonardo Vinci Academia ». Et parmi ces modèles et dessins, il y en avait un avec lequel, bien des fois, il démontra à plusieurs citoyens instruits, qui alors gouvernaient Florence, vouloir soulever le temple de Saint-Jean de cette ville pour l'exaucer sur des degrés sans le faire crouler. Il appuyait même son dire de si forte raison qu'il venait à bout de persuader à chacun. Ce n'était enfin que lorsqu'il était parti que l'on reconnaissait l'impossibilité d'une entreprise aussi hardie. Sa conversation avait tant de charme qu'il attirait à lui tous les cœurs. Ne possédant à peine rien et travaillant peu, il eut toujours à son service des domestiques, des chevaux, ainsi que toute espèce d'animaux dont il faisait ses délices et à qui il donnait ses soins avec infiniment de patience et d'attachement. Il le prouva souvent. Car alors dans les endroits où l'on vendait les oiseaux, et les tirant lui-même de la cage après en avoir acquitté le prix qu'on lui en demandait, il leur rendait la liberté. La nature voulut si bien le favoriser que partout où se tournait sa pensée, son jugement et son esprit, ses actions paraissaient tenir de la divinité. Et quant à la perfection, personne ne put jamais l'égaler en pénétration d'esprit, en vivacité, bonté, charmes et grâces. On s'aperçoit aisément que, vu la grande intelligence qu'il avait de son art, il commença beaucoup de choses sans en finir aucune. Il lui semblait que sa main ne pouvait arriver au degré des perfections de ses idées, et il s'en formait de si subtil et si extraordinaire qu'il croyait que ses mains, toutes habiles qu'elles étaient, n'auraient jamais pu les vaincre. Il était si fantasque que, réfléchissant au cours de la nature, il apprit à connaître la propriété des plantes, observant en même temps les mouvements du ciel, le cours de la lune et du soleil. Par le moyen de Sieur Pierre, comme nous l'avons déjà dit, il étudia dès son enfance les premiers principes de son art, chez André del Verrocchio, qui, occupé à peindre le baptême du Christ par Saint Jean, abandonna pour toujours la palette, furieux de ce qu'un enfant savait plus que lui. Léonard, quoique très jeune, y ayant représenté un ange tenant quelques vêtements, lequel surpassait de beaucoup les figures d'André. On lui donna un carton représentant Adam et Ève dans le paradis terrestre, qu'il exécuta au pinceau, dans le genre du clair-obscur et rehaussé de blanc. On y voyait quantité de plantes et quelques animaux qui, à dire vrai, étaient rendus avec tant de soin et de naturel que le génie le plus divin n'eût pu faire pareille chose. Ce carton devait être exécuté en Flandre pour une portière tissue en soie et or, destinée à être envoyée au roi de Portugal. Le figuier, accompagné de ses feuilles et branches, est conduit avec tant de perfection que les idées mêmes se perdent lorsque l'on réfléchit à combien de patience un homme peut se vouer. Il y a encore un palmier qui reçoit sa rondeur de la courbure de ses palmes et dont le travail est achevé avec un art si sublime et si étonnant que la patience et le génie de Léonard en étaient seuls capables. Cet ouvrage ne fut pas autrement exécuté et le carton que l'on voit aujourd'hui à Florence, dans l'habitation fortunée du magnifique Octavien de Médicis, lui fut donné il y a peu de temps par l'oncle de Léonard. On dit que, Sieur Pierre de Vinci étant à la campagne, un de ses paysans qui avait coupé sur sa terre un figuier, dont il avait fait lui-même une rondache, vint le prier d'un ton familier de la lui faire peindre à Florence. Pierre y consentit avec d'autant de plaisir que le paysan était très ardent à la pêche et à prendre les oiseaux, qu'enfin il l'employait beaucoup à ses exercices. Aussi, l'ayant fait porter à Florence, sans dire à Léonard de qui il la tenait, il le pria d'y peindre dessus quelque chose. Léonard, ayant pris un jour cette rondache et voyant qu'elle était courbe et grossièrement taillée, la dressa au feu et la donna à un tourneur, qui de brute qu'elle était, la polie et la rendit plus délicate. L'ayant ensuite empreinte de blanc et arrangée à son goût, il songea à ce qu'il pouvait y peindre, de manière à effrayer ceux qui s'en approcheraient et à produire sur eux le même effet qu'autrefois la tête de Méduse. Il porta donc pour cela dans une chambre, où personne que lui n'entrait, des lézards de diverses espèces, des grillons, des serpents, des papillons, des sauterelles, des chauves-souris, et d'autres semblables animaux extraordinaires, dont il composa un gros et vilain animal, aussi affreux qu'effrayant, qui semblait enflammer et empoisonner l'air de son haleine. Il le représenta sortant d'une pierre sombre et brisée, soufflant le poison par sa gueule, le feu par ses yeux et la fumée par les narines, d'une manière si bizarre que l'on croyait voir un monstre épouvantable. Il souffrit d'autant à le faire que ces animaux morts répandaient dans la chambre une odeur infecte. Mais il ne s'en aperçut pas, d'après le grand amour qu'il portait à son art. Cet ouvrage terminé, et n'étant redemandé ni par le paysan ni par Sir Pierre, Léonard lui dit qu'il pouvait, quand cela lui conviendrait, envoyer chercher la rondache, attendu qu'il avait fini ce qui le concernait. Sir Pierre étant donc allé à cet effet un matin chez son fils, et ayant frappé à sa porte, Léonard lui ouvrit, le priant d'attendre un moment. Puis, étant retourné dans sa chambre, il plaça la rondache sur le chevalet, disposa la fenêtre de manière à ménager le jour. Enfin, le fit entrer pour la voir. Sieur Pierre, n'y pensant point, fut saisi au premier abord, car il ne croyait pas voir la rondache, et attribuait à la nature ce qui n'appartenait qu'à l'art. Faisant un pas en arrière, Léonard le retint, en lui disant « Cet ouvrage produit l'effet qu'il doit faire. Prenez-le donc, emportez-le, car tel est le résultat que l'on doit en attendre. » Cela parut plus que miraculeux à Sieur Pierre, qui loua extrêmement le mot ingénieux de Léonard. Ayant ensuite acheté secrètement d'un mercier une autre rondache, sur laquelle était peint un cœur percé d'une flèche, il la donna au paysan, qui lui en eut obligation pendant toute sa vie. Sa pierre vendit en cachette à certains marchands de Florence pour la somme de 100 ducats, celle de Léonard, qui bientôt après leur fut achetée 300 ducats par le duc de Milan. Léonard fit ensuite un très beau tableau représentant une vierge. Le pape Clément VII l'avait en sa possession. Et parmi diverses choses, on y voyait une carafe pleine d'eau, dans laquelle étaient quelques fleurs qui, joint à leur éclat, étaient encore couvertes de rosée, ce qui les approchait davantage du naturel. Pour Antoine Seigny, son ami, il dessina un Neptune avec tant de soin qu'il paraissait vivant. On y voyait la mer agitée, son char était tiré par des chevaux marins et accompagné de monstres, d'orques, de vents et autres dieux marins dont quelques têtes étaient très belles. Ce dessin fut donné par Fabio, son fils, à M. Jean Gaddi, avec cet épigramme « Pinxit Virgilius Neptunum, Pinxit Homerus, Dum Maris, Undisoni, Pervada, Flectit Equos, Mente quidem vates illum consuexit uterque, Vincius est oculis, iure que vincit eos. » Il eut l'idée de peindre dans un tableau à l'huile une tête de méduse, coiffée de serpents, qui en s'entrelaçant se nouent les uns avec les autres, et dont la composition est la plus extraordinaire qu'on ne puisse jamais imaginer. Mais comme cet ouvrage exigeait du temps, il ne fit point terminer, ainsi que cela lui arriva presque toujours. Ce morceau se trouve parmi les choses rares, dans le palais du duc Côme, avec une tête d'ange dont le bras élevé vient en avant, et forme un raccourci de l'épaule au coude. Il a l'autre, ainsi que la main, placée sur sa poitrine. C'est une chose remarquable que ce génie, voulant donner beaucoup de relief à ses ouvrages, outrait tellement ses ombres pour arriver au fond les plus obscurs, qu'il cherchait des noirs capables de surpasser et d'obscurcir les autres noirs afin de rendre plus brillante la partie éclairée. Il en résultait que ces teintes si foncées, détruisant entièrement l'éclair, il paraissait avoir plutôt imité les effets de la nuit que la lumière du jour. Mais son but était de donner plus de relief à ce qu'il faisait et d'atteindre la perfection de l'art. Il était si satisfait lorsqu'il rencontrait certaines têtes d'hommes à caractère bizarre, avec leur barbe et leurs cheveux naturels, que si l'un d'eux lui eût plu, il l'eût suivi pendant un jour entier. Et son idée en était tellement frappée que, rentré chez lui, il le dessinait comme s'il eût été présent. On en voit de cette sorte beaucoup de têtes d'hommes et de femmes. J'en ai le pareil dessiné par lui à la plume dans notre recueil de dessins tant de fois cité. Telle fut celle d'Américo Vespucci, très belle tête de vieillard dessinée au charbon, et celle de Scaramuccia, capitaine des Bohémiens, que Giambullari laissa à Donato Valtambrini d'Arezzo, chanoine de Saint-Laurent. Il commença un tableau représentant l'adoration des mages, dans lequel la sublimité des têtes surpasse une infinité de belles choses. Ce tableau était dans la maison d'Amerigo Benci, vis-à-vis celle des Peruzzi, et resta imparfait, ainsi que d'autres ouvrages. Jean Galeas, duc de Milan étant mort, Louis Forché lui succéda dans la même année 1494. La grande réputation dont jouissait Léonard le fit appeler à Milan auprès du duc qui aimait infiniment la lyre et désirait l'entendre. Cet artiste porta avec lui l'instrument qu'il avait fait de sa main, en grande partie d'argent, ayant la forme d'une tête de cheval, chose aussi nouvelle qu'extraordinaire, afin que le volume d'harmonie en fût plus sonore. Aussi surpassait-il tous les musiciens qui avaient été admis à ce concours. Outre cela, il improvisait en vers mieux qu'aucune personne de son temps. Les raisonnements de Léonard parurent si admirables au duc qu'enthousiasmé de ses mérites à un point incroyable, il le pria de lui peindre pour un tableau d'hôtel une nativité que ce duc envoya à l'empereur. Il fit encore à Milan, chez les frères dominicains, à Sainte-Marie-des-Grâces, une scène non seulement étonnante, mais très belle, et donna aux têtes des apôtres tant de noblesse et de beauté qu'il n'acheva pas celle du Christ, croyant ne pouvoir lui donner ce caractère divin qu'elle exige. Cet ouvrage, regardé comme fini, fut toujours en grande vénération aux yeux des Milanais et des autres étrangers, vu que Léonard eut l'idée, et cela lui réussit, d'exprimer dans les apôtres le sentiment du soupçon et le désir de connaître celui qui trahissait leur maître. Leur visage annonce l'amour, la crainte, l'indignation ou la douleur de ne pouvoir deviner la pensée du Christ, ce qui n'est pas moins étonnant que de voir en opposition l'opiniâtreté, la haine et la trahison de Judas. Outre cela, la plus petite partie de cet ouvrage prouve encore tout le soin qu'il y mit, car le tissu de la nappe est si parfaitement imité que la toile même ne rend pas mieux la nature. On dit que le prieur de cette maison tourmentait fort mal à propos Léonard, afin qu'il terminât cet ouvrage, lui paraissant étrange qu'il restât parfois à la moitié du jour en contemplation. Il aurait voulu qu'à l'instar des travaux qui se faisaient dans le jardin, il n'eût jamais quitté le pinceau. Et cela ne suffisait pas. Il emporta ses plaintes au duc, le pressa, de manière à le déterminer à envoyer chercher Léonard, et à l'engager à accélérer son ouvrage, ce dont ce prince s'acquitta, faisant connaître à cet artiste que tout ce qu'il faisait n'était que pour céder aux opportunités du prieur. Léonard, s'apercevant de la finesse et de la discrétion du duc, voulut, ce qu'il n'avait jamais fait avec le prieur, avoir à ce sujet un long entretien avec lui. Il parla beaucoup de son art, et lui fit comprendre que parfois les grands génies en font davantage lorsqu'ils travaillent le moins, l'esprit donnant essor à l'imagination, et perfectionnant les idées que les mains ensuite retracent et expriment. Il lui ajouta qu'il lui restait encore deux têtes à faire, celle du Christ, dont il ne voulait pas chercher le modèle sur la terre, qu'à l'égard de la beauté et de la grâce céleste due à cette divinité, il ne pouvait croire que son imagination fût jamais assez vaste pour la concevoir. L'autre était celle de Judas, qu'il occupait continuellement, et dont il pensait ne pouvoir davantage exprimer les traits, parce qu'après avoir reçu tant de bienfaits, il avait eu le courage inhumain de se résoudre à trahir son maître. Que néanmoins il s'occuperait de cette seconde tête, mais qu'enfin, ne pouvant mieux rencontrer, celle de ce prieur aussi importun qu'indiscret lui deviendrait utile. Ce discours prêta infiniment à rire au duc, qui approuva mille fois ses raisons. Aussi le pauvre prieur confondu s'en tint à poursuivre les travaux du jardin et laissa en repos Léonard qui acheva la tête de Judas, dans laquelle on reconnaît le vrai caractère de la trahison et de la perfidie. Celle du Christ resta non terminée, comme on l'a déjà dit. La beauté de ce tableau, tant par la composition que par le soin extrême qu'y mit Léonard, fit naître au roi de France l'envie de le posséder. Aussi employa-t-il différents moyens pour trouver les architectes qui, à l'aide de fer et de charpente, puissent le mettre à l'abri des dangers du transport, sans prendre garde aux dépenses que cela pouvait occasionner. Mais cet ouvrage n'étant pas sur le mur, Sa Majesté fut forcée d'y renoncer, et les Milanais en restèrent possesseurs. Tandis qu'il travaillait à cette scène, il fit à l'extrémité du même réfectoire, où l'on voit une passion dans le style ancien, les portraits du dit Louis Sforze avec Maximilien, son fils aîné, et de l'autre côté ceux de la duchesse Béatrice, avec François, son autre fils, lesquels devinrent par la suite duc de Milan. Ces portraits sont de la plus grande beauté. Lorsqu'il donnait ses soins à cet ouvrage, il proposa au duc de faire un cheval de bronze d'une grandeur étonnante pour y placer en ressouvenir du duc sa figure. Il le commença dans une telle proportion qu'il ne put jamais l'achever. Certains ont pensé, ainsi que ceux à qui souvent l'envie fait porter des jugements pervers, que Léonard l'avait commencé dans l'intention de ne le pas finir, plus que ses autres ouvrages. car on regardait comme une difficulté insurmontable qu'il voulut d'un seul jet couler une masse aussi considérable. On pourrait croire de même que, par le résultat, bien des personnes ont jugé ainsi, vu que beaucoup d'ouvrages de cet artiste sont restés imparfaits. À la vérité, il est à présumer que trop de désir présenta des obstacles à son esprit aussi vaste que rare, et qu'en voulant toujours chercher perfection sur perfection, l'ouvrage fut, comme le dit notre Pétrarque, ralenti par le désir même. Ce qui voit le grand modèle en terre que fit Léonard, avoue n'avoir jamais rien vu de plus beau. Il subsista jusqu'au moment où les Français, venant à Milan avec Louis, roi de France, le brisèrent entièrement. Il y a encore de lui un petit modèle en cire qui est égaré et était regardé comme un morceau achevé, de même qu'un livre d'anatomie des chevaux que cet artiste avait fait pour son étude personnelle. Il s'appliqua ensuite avec un plus grand soin à l'anatomie du corps humain, aidé et aidant naturellement en cela M. Marc Antonio della Torre, philosophe distingué, lequel alors professait à Pavie, écrivait sur cette matière, et fut des premiers, comme on le dit, qui commença à jeter un grand jour sur la médecine, d'après les principes de Galien, et à répandre le vrai rayon de lumière sur l'art de l'anatomie jusque-là, enveloppé des ténèbres épais de l'espérance. À cet égard, le génie, le travail et la main de Léonard lui furent infiniment utiles. Car cet artiste en forma un livre dessiné précieusement à la sanguine, avec des hachures à la plume, après avoir fait les écorcher de sa propre main. Il y représenta toute la partie des os, ensuite y ajouta avec ordre tous les nerfs et les couvrit de muscles. Les premiers attachés à l'os, ainsi que les seconds, qui le rendent solide, et que les troisièmes qui donnent le mouvement. Sur ceci, séparément, il écrivit à rebours de la main gauche des lettres aussi mauvais caractères que celui qui n'en a pas l'habitude ne peut y rien reconnaître qu'à l'aide d'un miroir. Une grande partie de ce dessin de l'anatomie de l'homme est en la possession de M. François de Melzo, gentilhomme milanais, qui du vivant de Léonard était très bel enfant et infiniment aimé de lui. Aujourd'hui, quoique d'un âge avancé, les grâces, la beauté ne l'ont pas abandonné, et c'est avec grand soin et comme un reste précieux qu'il conserve ses dessins, ainsi que le portrait de Léonard, dont, en lisant les écrits, on appelle à concevoir que ce génie divin ait pu raisonner aussi bien de son art, des muscles, des nerfs, des veines, de tout enfin avec autant de soin. N.N., peintre milanais, a de même entre les mains quelques ouvrages de cet artiste, pareillement écrits à rebours de la main gauche, dans lesquels il traite de la peinture, des règles du dessin et du coloris. Celui-ci va me voir à Florence il y a peu de temps, et désirant les faire imprimer, il les emporta à Rome, à l'effet de les mettre au jour. J'ignore ce qui en est résulté. Pour en revenir à Léonard, il était à Milan lorsque le roi de France y vint. Ayant été engagé à faire quelque chose d'extraordinaire, il exécuta un lion qui fit plusieurs pas, et dont la poitrine s'étant ouverte fit voir quantité de fleurs de lys. Dans cette même ville, il prit pour élève Salé, milanais, qui réunissait la grâce et la beauté, et avait de si beaux cheveux bouclés que son maître s'en délectait en ne peu davantage. Il lui enseigna beaucoup de choses concernant son art, et certains ouvrages qui passent à Milan pour être de Salé furent retouchés par Léonard. De retour à Florence, sachant que les frères Servite avaient choisi Filippino pour faire le tableau du maître-autel de l'Annonciade, il dit qu'il s'en serait chargé avec plaisir. Alors Filippino, en la monnette, s'en désista, et ses frères, pour que Léonard l'exécutât, le retirèrent chez eux, le défrayèrent de ses dépenses ainsi que toute sa famille. Mais il les amusa pendant longtemps et ne le commença point. Enfin, il fit un carton représentant la Vierge, Sainte-Anne et l'Enfant Jésus, qui étonna tous les artistes. Et pendant 2 jours, hommes, femmes, jeunes gens et vieillards se portèrent en foule dans la chambre, comme aux fêtes solennelles. On remarquait dans la Vierge tout ce que la candeur peut accorder de grâce et de beauté à la Mère du Christ. Léonard voulant exprimer cette modestie, cette humilité qui caractérise une Vierge saisie d'admiration à la vue de son Fils, qu'elle soutenait avec tendresse sur son sein. Et tandis qu'avec douceur elle baissait le regard vers un petit Saint-Jean qui s'amusait avec un agneau, Sainte-Anne souriait avec plaisir en voyant sa race devenue céleste, vrai résultat du génie et du jugement de Léonard. Ce carton, ainsi qu'on le dira par la suite, passa en France. Il fit le portrait de la Ginevra d'Amerigo Benci, très beau morceau, et abandonna l'ouvrage des frères qui le rendirent à Filippino, lequel étant mort ne put l'achever. Ensuite, il commença pour François del Giocondo le portrait de Mona Lisa, sa femme, auquel il travailla pendant 4 ans, le laissant imparfait. Ce tableau appartient aujourd'hui à François Ier et est placé à Fontainebleau. Celui qui désirait se convaincre jusqu'à quel point l'art peut imiter la nature, le pouvait d'autant plus que les moindres choses sont rendues dans cette tête avec la plus grande finesse. Les yeux avaient ce brillant, cette humilité qui existe sans cesse dans la nature, et étaient entourés de ces rouges pâles et des paupières qui ne peuvent s'exécuter qu'avec une très grande subtilité. On voyait la manière dont naissent les sourcils dans la chair, qui tantôt plus épais, tantôt plus clairs, tournoient selon les pores qu'indique la nature. Le nez n'était pas moins bien rendu, et toutes ces belles ouvertures rougeâtres et délicates. La bouche vermeille et ses extrémités se fondaient tellement avec la carnation du visage que l'on croyait plutôt voir la chair que la couleur. Lorsque l'on regardait attentivement le creux de la gorge, on semblait apercevoir les battements du pouls, et l'on peut dire avec vérité que ce portrait était peint de manière à faire craindre et trembler les plus grands maîtres. Tandis que Léonard était occupé à peindre Madame Lise, remarquable par sa beauté, il avait soin que l'on jouât de quelque instrument, ou que l'on chantât, et même que des bouffons l'égayassent sans cesse, afin d'éloigner d'elle cette mélancolie qui souvent se rencontre dans les portraits. Le sourire de celui-ci séduisait au point qu'on le jugeait être de la main d'un dieu. On était enfin frappé d'étonnement, l'art ayant su lui donner la vie et rivaliser avec la nature. Ce divin artiste s'était acquis une si grande réputation que la ville même, et tous ceux qui chérissaient son art, désiraient qu'il laissât des preuves de son rare talent. Partout, il était question de lui faire faire quelques travaux remarquables qui honorassent son pays et l'illustrassent par le génie, la grâce et le jugement qui caractérisaient ses ouvrages. Le gonfalonier et les principaux citoyens convinrent ensemble que par un décret public, il serait ordonné qu'il peindrait quelques belles ouvrages dans la grande salle du conseil, reconstruite de nouveau avec beaucoup de célérité, et dont l'architecture avait été exécutée d'après ses idées, et celles de Julien Saint-Gallo, de Simon Polajuoli, dit le Cronaca, de Michel-Ange Bonarotti et de Baccio d'Agnolo, comme on le dira plus clairement à son lieu et place. C'est pourquoi Pierre Soderini, alors gonfalonier de justice, lui alloua la dite salle, et Léonard voulant l'achever, il commença un carton dans la salle du pape à Sainte-Marie-Nouvelle, dont le sujet était l'histoire de Nicola Piccinino, capitaine de Philippe, duc de Milan. On y admira un groupe de cavaliers se disputant une enseigne, et l'on n'applaudit pas moins à la finesse de son idée en y ayant représenté cette déroute. Dans cet ouvrage, la colère, la rage et la vengeance s'emparent également des hommes et des chevaux. Deux de ces derniers, les jambes de devant entrelacées, se mordent et se déchirent. Ceux qui les montent attaquent la dite enseigne que tient un soldat qui, d'un coup d'épaule et le corps retourné, pousse en avant son cheval, tirant à lui le bâton de l'étendard, pour l'arracher des mains de 4 autres, dont 2 le défendent d'une main, et de l'autre élevé cherchent à le couper avec leur sabre. Pendant ce temps-là, un vieux soldat, coiffé d'un grand bonnet rouge, le tient d'une main en criant, et de l'autre le sabre levé, porte un coup avec colère, de manière à couper les 2 mains de ceux qui, en grinçant les dents de toute leur force, tentent, dans une attitude terrible, de défendre leur étendard. À terre, entre les jambes des chevaux, sont 2 soldats en raccourci combattant ensemble. L'un, le bras élevé, tient sous lui son adversaire, faisant tout son possible pour le poignarder, tandis qu'il se débat avec ses jambes et ses bras afin d'éviter la mort. Il serait difficile de décrire la variété que mit Léonard dans les vêtements des soldats, ainsi que dans les cimiers et autres ornements. Son habileté ne fut pas moindre à l'égard des formes et du caractère qu'il donna à ses chevaux. Personne ne sachant mieux que lui exprimer en eux cette vigueur dans les muscles, cet air d'intrépidité et cette beauté ravissante. On prétend que, pour dessiner ce carton, il construisit un échafaud très ingénieux, qui, lorsqu'il le rétrécissait, s'élevait, et lorsqu'il l'élargissait, s'abaissait. Voulant peindre à l'huile sur la muraille, il composa un mélange si épais pour l'en coller, que continuant à peindre dans la dite salle, et se servant de ce nouveau moyen, ce mélange commença à couler de telle sorte qu'il abandonna bientôt son ouvrage, s'apercevant qu'il était gâté. Ses actions étaient toujours guidées par beaucoup de grandeur d'âme et de générosité. Aussi dit-on qu'étant un jour allé à la banque, à l'effet de toucher la pension que chaque mois lui avait assignée Pierre Soderini, le caissier voulut le payer en quadrin. Mais il les refusa en disant « Je ne suis pas peintre pour pareille monnaie ». Accusé d'avoir trompé le dit Soderini, des murmures s'élevèrent contre lui. Et conjointement avec ses amis, il rassembla la somme qu'il avait reçue pour la restituer à Pierre, qui la lui refusa. Il s'en alla à Rome avec le duc Julien de Médicis, à l'époque de l'avènement du pape Léon au pontificat. Et comme il s'appliquait beaucoup aux choses qui ont trait à la philosophie, et principalement à l'alchimie, dans la route, à l'aide d'une pâte composée d'une cire, il exécutait des animaux extrêmement légers, pleins de vent, et en soufflant dedans, il les faisait voler en l'air, jusqu'au moment où le vent cessant, il finissait par tomber à terre. Le vigneron du Belvédère, ayant trouvé un lézard très extraordinaire, Léonard, à l'aide d'un mélange de vif-argent, lui mit des ailes, faites d'écailles d'autres lézards écorchés, lesquels frémissaient lorsque cet animal marchait. Lui ayant fait aussi des yeux, des cornes et de la barbe, il l'apprivoisa. Et le tenant renfermé dans une boîte, il le faisait voir à tous ses amis qui, saisis de frayeur, prenaient aussi la fuite. Il avait souvent coutume de faire dégraisser par parties et nettoyer les boyaux d'un mouton, de manière que par leur finesse, le creux de la main aurait pu les contenir. Dans une autre chambre fort grande, il avait placé deux soufflets de forgeron, auxquels il adaptait un bout des 10 boyaux, et en les gonflant, il la remplissait au point que celui qui y était n'avait d'autre ressource que de se retirer dans un coin, prouvant par là que ces boyaux transparents et pleins de vent, après avoir tenu peu de place dans les principes, étaient arrivés à en occuper beaucoup et les comparant au mérite. Il fit un grand nombre de ces folies, s'appliqua à connaître l'effet des glaces et employa des moyens inusités pour trouver des huiles propres à peindre, ainsi que des vernis bons à conserver les tableaux. Dans ce temps, il exécuta pour M. Balthazar Turini da Pescia, dataire du pape Léon, un petit tableau représentant une vierge tenant son fils dans ses bras, et s'en acquitta avec un soin et un art étonnants. Mais soit par la faute de celui qui mit la première impression au blanc, ou seulement par l'effet de tant de mélanges bizarres d'empreintes et de couleurs, cet ouvrage est aujourd'hui très gâté. Dans un autre petit tableau, il fit un jeune enfant qui brille par la grâce et la beauté. Ces deux morceaux sont présentement à Pescia, chez M. Jules Turini. On rapporte que Léon l'ayant chargé d'un ouvrage, il s'occupa sur le champ à distiller des huiles et des herbes pour en faire du vernis. Ce qui fit dire au pape, cet homme ne fera rien, puisqu'il songe à la fin de son ouvrage avant de l'avoir commencé. Il y avait entre Léonard et Michel-Ange une très grande rivalité qui détermina celui-ci à quitter Florence avec l'agrément du duc Julien pour entrer en concurrence, le pape l'ayant appelé au sujet de la façade de Saint-Laurent. À cette nouvelle, Léonard s'en alla en France où le roi ayant eu de ses ouvrages le prit dans la plus grande affection, désirant qu'il coloriât le Gartron de Sainte-Anne. Mais selon sa coutume, cet artiste l'amusa longtemps en parole. Enfin, dans un âge avancé, il fut malade pendant plusieurs mois, et se voyant prêt à terminer sa carrière, il désira se disposer promptement à se ranger dans la voie de la religion chrétienne. Accablé de douleur et plein de repentir, il voulut, après avoir fait l'aveu de ses fautes, recevoir hors de son lit ses derniers sacrements, quoiqu'il ne pût se soutenir qu'à l'aide de ses amis et de ses serviteurs. Le roi, qui souvent et avec bonté avait coutume de lui rendre visite, étant venu le voir à l'improviste, Léonard, par respect, se leva sur son séant, lui faisant part de ses maux et des événements qui en sont la suite, et lui manifestant néanmoins combien il avait offensé Dieu et les hommes, en ne s'étant pas exercé dans son art comme il eût dû le faire. Un paroxysme annonçant l'approche de sa mort, le roi se leva et lui soutint la tête, dans l'intention de lui porter secours et soulagement à ses maux. Ce génie divin reconnaissant ne pouvoir jouir d'un plus grand honneur, expira entre les bras de ce roi dans sa 75e année. De combien de regrets ne furent pas accablés ceux qui avaient connu Léonard. Jamais personne n'avait tant illustré l'art de la peinture. L'éclat et la beauté de sa figure amenaient à la gaieté, les cœurs plongés dans la tristesse. Par la douceur de ses entretiens, il savait vaincre les volontés les plus absolues. La violence et la fureur étaient enchaînées par la force dont l'avait douée la nature. De la main droite, il tordait le battant d'une petite cloche ainsi qu'un fer de cheval comme s'ils eussent été de plomb. Généreux, il rassemblait et nourrissait ses amis pauvres et riches pourvu qu'ils eussent en partage l'esprit et la vertu. Chacune de ses actions embellissait et honorait l'asile de la honte et de la misère. Aussi, la ville de Florence eut autant à se glorifier de lui avoir donné le jour qu'à regretter la perte infinie qu'elle fit d'un artiste aussi célèbre. Les peintres modernes ont profité de certains tons obscurs qu'il adopta dans sa manière de peindre à l'huile pour donner beaucoup de relief et de figure à leur figure. En sculpture, et d'après ses avis, il contribua à la réussite de trois figures en bronze, placées au-dessus de la porte de Saint-Jean, du côté du Nord, exécutées par Jean-François Rustici, lesquelles peuvent être considérées comme de nouveaux chefs-d'œuvre, tant par la perfection de la fonte que par celle du dessin. Nous possédons de Léonard un traité de l'anatomie des chevaux, un autre de celle des hommes, beaucoup plus complet. Et soit par rapport aux beautés qui s'y rencontrent en tant de parties, soit qu'il y employa beaucoup plus encore les raisonnements que les faits, jamais les faces de la postérité ne cesseront d'être empreintes de son nom et de sa renommée. Monsieur Jean-Baptiste Strozzi fit à ce sujet et à sa louange ce qui suit. Vince costui pur solo, tutti altri e vice filia, et vince appelle, et tutto il lor vittorioso stuolo. Celui-ci surpasse à lui seul tous les autres. Il triomphe de Phidias, d'Appel et de tous ceux qui partagèrent leur gloire. Ce fut Jean-Antoine Boltraffio, milanais, disciple de Léonard, aussi habile qu'expérimenté, qui en 1500 peignit avec grand soin dans l'église de la Miséricorde, hors Bologne, un tableau à l'huile, représentant la Vierge donnant son fils entre ses bras, Saint Jean-Baptiste et Saint Sébastien nus. On y voit aussi à genoux, et peint d'après nature, celui qui lui fit faire cet ouvrage vraiment beau, où il a non seulement écrit son nom, mais où il annonce en même temps être disciple de Léonard. Cet artiste en a fait d'autres à Milan et ailleurs. Cependant, on peut regarder celui-ci comme ayant le plus de mérite. Marco Gioni est aussi élève de Léonard, et a peint à Sainte-Marie de la Paix la mort de la Vierge et les noces de Cana en Galilée. Fin de la vie de Léonard de Vinci.